voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. Frère Paul et frère Jean-Michel ont fait le choix de la solitude et du vide. Ils vivent dans un ermitage toute l'année et leur quotidien est rythmé sur les prières et les saisons. Dans cette deuxième partie de l'émission La Voix du Kaizen, je vous propose une balade sonore entre châtaigniers et vieilles pierres. C'est chouette aujourd'hui, hein. Il pleut, la nature voilà. Est super contente.
Nous, on est très contents, on est super contents aussi parce qu'on avait vraiment un besoin énorme.
Et là, ça mouille bien en plus, hein. C'est une bonne pluie, on sent que le sol est bien gorgé d'eau, ça rentre
ça
en profondeur.
Un petit peu, mais il faudrait que ça dure. Hein.
Ouais.
Il y a besoin de beaucoup, beaucoup, mais bon, ça commence comme ça. Puis là, on a passé la période la plus chaude. Hein. Maintenant, c'est quand même, on tourne sur l'automne et les pluies devraient se manifester un peu plus.
Les ermitages, c'est que pour vous?
Alors, bien aussi, non, les ermitages, il y a deux choses. Les ermitages, en fait, sont venus au départ parce qu'on n'avait que la maison. Et quand il y a eu des gens qui ont voulu venir partager un petit peu notre vie pour quelques jours,
oui.
On a éprouvé le besoin d'avoir des lieux un petit peu à quelques distances de la maison, pour faire un accueil d'abord plus léger pour nous, parce que les gens sont indépendants en plus,
ouais.
Et puis également pour accueillir des dames, enfin, etc. Dans la maison, on n'avait aucune commodité, et puis dans la vie monastique, on aime bien séparer un peu les choses.
D'accord.
Donc voilà, on a préféré privilégier ce système-là. Et dans les ermitages, on privilégie les femmes, et aussi des hommes qui veulent
d'accord.
vivre un peu plus en solitude.
Et là, voilà. Paul est dans l'ermitage
pour... Il est dans l'ermitage, mais alors lui, d'une façon continue, dans celui-là, il est dans l'ermitage depuis 2 ans. Là. Voilà. Mais on a quand même une vie communautaire. On a des offices ensemble chaque jour. On a 3 offices dans la journée
ouais.
où on se retrouve à la chapelle, où on prie ensemble. Et il prend le repas de midi aussi avec nous. Voilà.
D'accord.
Alors la difficulté était de trouver des endroits plats dans le pays pour construire.
Pour construire.
Donc c'est pour ça que là on est sur un sommet un peu, une bout de crotte, et là il y avait un peu de terrain plat. Donc on a construit en 2 fois, donc une partie en pierre au début, avec l'ermitage en pierre qu'on a bâti. Et après on a fait une extension avec un morceau en bois.
Mais donc tout ce qu'on voit là, que ce soit le muret, que ce soit...
Tout,
le...
on a tout bâti, il n'y avait rien du tout.
Et donc il y a 40 ans, vous êtes arrivé, il n'y avait rien quoi.
Ah non, il n'y avait rien de tout ça. Et on a 3 ermitages comme ça qu'on a bâti. Un
ouais.
autre dans les années 2000, là où il y a une jeune femme là, qui est en retraite pour quelques temps. Et puis un autre ermitage qu'on a fait tout en bois au fond de la vallée.
Mais c'est voilà. quoi le principe de la retraite? Par exemple, une jeune femme qui vient ici en retraite, c'est pour se retrouver seule avec elle ou que...
Se retrouver seule avec elle, partager notre vie aussi, entrer dans ce qu'on vit, tout simplement. Donc elle vient participer aux offices avec nous, si elle a des questions à poser, elle les pose. Et puis également, il y a un partage de travail, c'est-à-dire que le matin, en général, on demande aux personnes qui le peuvent de faire un petit travail manuel avec l'un ou l'autre pendant 2 heures. Voilà, sous. Okay. Et là, on ne demande pas d'argent à ce moment-là, ça nous aide, nous, personnellement, pour le travail. Et aussi, comme la solitude est un peu difficile pour certaines personnes qui ont l'habitude d'être très actives dans la vie, ça leur permet d'avoir un petit aussi travail manuel, tout simple, voilà, pour décongestionner un peu la tête.
Donc ça peut être couper le bois, comme
voilà,
le bois que je vois
couper
ici.
Couper le bois, fendre le bois, ça peut être au jardin, surtout les jardins.
Et les jardins aussi.
Les jardins, ça peut être du débroussaillage, ça peut être... Selon ce qu'il nous faut. Ah ben voilà.
Bonjour Paul.
Shalom.
Bonjour Paul. Donc moi c'est Alexandre et on est venu avec quelques amis.
D'accord. Avec Nelly.
On enlève les chaussures pour rentrer?
Non.
Oh. C'est pas vrai, ça a été bâti tout ça par
tout
vous?
Tout ça, voilà, oui. En 2 fois, donc tu vois. Après, parce qu'il n'y avait pas de coin cuisine, ni l'eau était à l'extérieur.
Oui.
Donc pour rester pour des longs séjours, quand c'est pour 8 jours, ça posait pas de problème. Mais pour des longs séjours, on a fait une petite cuisine. Quoi,
un petit paradis. Place.
Mais complètement, voilà. Mais donc c'est complètement autonome. Il y a et l'eau et le poêle pour se chauffer en hiver. Donc on peut très bien, c'est une petite maison. Quoi.
Voilà. Et les ermitages, c'est ça. Hein, mais souvent, c'est qu'une seule pièce, ouais. Mais où il y a le poêle et il y a l'eau. Celui-là a l'électricité. Les autres ont l'électricité aussi, mais il y en a un qui c'est avec des panneaux solaires.
Ça dure 25 ans sans électricité, sans eau. Mais là, depuis que je suis là.
25 ans sans eau. Et là, l'eau, c'est l'eau de la source alors.
C'est une source qu'on a captée dans les bois, beaucoup plus haut.
Donc il fallait chercher un tuyau, le raccorder à la source et ramener l'eau jusqu'ici. Quoi.
Et entretenir le tuyau.
Oui.
Parce que le tuyau aussi, avec les hivers, la neige,
les écureuils attaquent les tuyaux en polystyrène, comme
c'est
ça.
C'est vrai. Ouais.
Et donc on a eu beaucoup de problèmes avec.
Donc vous avez bâti ça tous les deux ensemble. Quoi. Il y a eu d'autres personnes.
Une autre personne. Moi, j'ai vu partie
des retraitants nous aident aussi. Là, c'est une retraitante qui a aidé. Voilà.
Ah bon, mais tous les murets qu'on voit là, c'est vous ?
Non, ça, on a
remonté des centaines de brèches.
Donc ça veut dire qu'avant, à l'époque, il y avait déjà ici des gens qui habitaient, qui cultivaient et qui.
Des siècles.
Tout ça s'était cultivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Toutes les forêts, c'était que des terrasses, que de cultures. L'oliveraie, vigne.
Et donc le milieu a complètement repris le dessus, quoi.
Ouais.
La forêt,
ça va vite. Ça va vite.
On a 70 paliers comme ça de terrasse jusqu'en bas. Et 20 km de mur, donc 10 km chacun avec Paul.
C'est incroyable quoi. Et là, tout ce qu'on voit, donc les châtaigniers par exemple, vous valorisez ça, vous en faites quelque chose?
Oui, mais malheureusement, vous voyez l'état un peu, ils sont très attaqués par le sinips là. On les vend tout simplement à une cave coopérative, les châtaignes.
Donc vous les récupérez, vous les ramassez, vous les transformez pas, quoi, vous les vendez brut.
On fait un peu de confiture. On peut pas tout faire.
Ou de crème, quoi, crème de châtaigne.
Voilà,
on le garde sèche pour manger l'hiver.
Parce que du coup, au niveau énergie.
On a des poêles dans chaque chambre et chaque ermitage, donc les gens sont autonomes, ouais. Ils peuvent se chauffer, voilà.
Et donc il n'y a pas de facture qui arrive ici, il n'y a pas une facture de chauffage, il n'y a pas une facture d'eau, il n'y a pas une facture d'électricité.
Ah bah si, l'électricité si.
Et qu'est-ce qui a fait que vous fassiez le choix finalement de prendre l'électricité, si pendant plus de 30 ans il n'y en avait pas ?
Non, le choix c'est parce que tout simplement, c'est à partir de ce moment-là que l'accueil est devenu un peu plus important, des gens nous ont demandé de venir faire des petits séjours ici. Ouais. Et notamment, c'était la machine à laver. C'était pas la lumière, mais la machine à laver pour laver les draps, parce qu'on commençait à avoir la réputation d'avoir des draps sales. Les panneaux solaires n'étaient pas assez puissants pour faire tourner vraiment la machine à laver. Ouais. Voilà. Alors.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
On ne s'est pas présenté. Votre prénom, c'est
Delphine.
Bonjour Delphine. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici?
En fait, moi, je voulais faire une retraite cet été. Et en fait, j'ai plein d'amis ici. Et quand je leur ai dit que j'avais besoin de faire une retraite et je ne savais pas trop où aller, ils m'ont rappelé à cet endroit-là dont j'avais déjà entendu parler.
Et qu'est-ce que c'est pour toi une retraite? Pourquoi est-ce qu'on fait une retraite?
En tout cas, pour moi, c'est un besoin de se retrouver en étant accompagné avec un cadre extérieur qui vraiment me donne une discipline que moi j'ai pas forcément et il se trouve que la vie qu'il mène, moi c'est vraiment une vie que j'ai envie de mener.
Quand tu dis la vie qu'il mène, c'est quoi cette vie dont tu parles?
En fait moi c'est une vie qui a du sens. C'est une vie qui a du sens parce que moi je vis à Paris, je fais un travail qui m'intéresse, mais je vis dans un appartement avec mes deux enfants. Et c'est une vie qui est déconnectée de la vie avec un grand V, je ne sais pas comment je pourrais dire. Ici, tu te lèves le matin, il parlait de rythme. Bon, la journée, elle est rythmée par des temps de prière. Et après, les activités qu'ils ont, par exemple, un matin, on a fait avec Paul, je l'ai aidé à vider un récipient de cire. Ils avaient accumulé de la cire des ruches. On a vidé le récipient. Et enfin, moi, je suis heureuse dans ces cas-là parce que on avait à faire une action qui était utile, il fallait le faire. Et c'était ce qu'ils ont récolté des ruches, la cire qu'ils ont récoltée. Et cette cire, elle peut être recyclée. Donc on a passé 2 heures à vider la cire qui va être recyclée. Enfin voilà, et je suis heureuse dans ces cas-là parce que c'est une activité qui est utile et en lien avec la nature, les abeilles, c'est en lien avec la nature. Et cette manière Le travail que je faisais le matin aussi, par exemple, c'était cueillir les fruits, les faire sécher dans des séchoirs. Ils ont un séchoir solaire aussi. Et c'est des choses que j'ai toujours faites, d'autres que j'ai toujours voulu faire, que je n'ai pas fait. Mais moi, ça me lie en fait à moi-même, des activités comme ça. Et moi, ça me rend vivante.
J'ai l'impression que c'est un peu un retour à l'essentiel.
Oui, c'est un retour à l'essentiel. En fait, moi, j'essaye de vraiment, dans la vie, voir quelles sont mes priorités pour pouvoir essayer de les vivre. Mais dans un quotidien, moi, je suis seule avec mes deux enfants. Tout à l'heure, Jean-Michel, il disait qu'ici, c'est facile, on n'a pas d'enfants. Dans un lieu comme ça, j'ai l'impression je peux plus vivre... Enfin, les priorités, c'est un lien à la nature, c'est dans leur disponibilité avec les autres aussi. Beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup d'écoute, et la prière.
Alors, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, j'ai l'impression que faire une retraite, ça va au-delà de la croyance, parce que tu voulais d'abord aller faire une retraite vipassana,
oui.
Donc orientée sur le bouddhisme. Ici, tu es dans un monastère,
oui.
Donc c'est deux choses différentes, et pourtant, tu fais le même travail sur toi.
Ben oui, parce qu'en fait, la source, enfin, c'est trouver la source, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai été baptisée, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait l'aumônerie jusqu'à 18 ans. Après, pour... des raisons, je ne sais même pas pourquoi, j'ai quitté tout ça. Et en fait, après, il s'est passé un événement dans ma vie qui fait que j'ai eu besoin de... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais une vie intérieure, en fait. Dans le milieu où je suis, c'est... Même si j'ai beaucoup de... Enfin, moi, j'ai des amis, je médite avec elles, je pratique. Mais ce n'est pas forcément, quand je médite, ce n'est pas forcément lié à... C'est lié à Dieu, à mon Dieu intérieur, mais après, bon, enfin, moi, j'en suis là de ma recherche. Voilà.
Ce qui est très important, c'est ce que dit la vie intérieure. Parce que de reprendre conscience aujourd'hui qu'il y a une vie à l'intérieur de nous-mêmes, ça semble simple, mais beaucoup ne sont plus en contact avec leur cœur profond.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc le bâtiment qu'on a devant nous, pareil, c'est vous qui l'avez construit. Non, il y avait quand même des ruines.
Non, ça, voilà, quand on est arrivé, ça c'était la ferme. Il y avait ce bâtiment-là, en mauvais état. Nous, on a refait tous les toits, petit à petit, etc. Et on a aménagé à l'intérieur. Il était abandonné depuis 12 ans. Donc les dernières paysannes, c'était une ferme avec des paysans, étaient parties en...
On a connu en 63.
En 63, elles sont parties.
Ouais.
Et elles étaient à l'hospice, parce qu'elles ont vécu jusqu'à 75 ans ici. Et quand elles n'ont plus pu, elles sont parties à l'hospice, à Joyeuse, et elles sont décédées après l'hospice. Voilà.
D'accord.
Et nous, il y avait 12 ans que c'était abandonné, donc c'était tout sous les ronces, tout ça. Et voilà, on s'est installé dans la maison, petit à petit, et puis on a travaillé.
On s'est installé dans cette maison qui était abandonnée donc depuis les années 63. Donc on s'est installé, le père s'est installé en 74 ici. Voilà. Et la maison était abandonnée, les terres étaient en friche, puisque c'était une petite ferme qui vivait en autarcie, complètement. Les dames,
sans eau, sans électricité.
Alors ils avaient une source, bien sûr, ils avaient une source, mais qui n'arrivait pas, bien sûr, là. Hein, il y avait pas de, il fallait aller chercher l'eau avec un broc, quoi. Et puis voilà, tout le reste, quoi. Je sais pas exactement tout. Ils faisaient toute leur culture.
Et quand vous êtes arrivé ici, quel était le projet de départ? C'était donc de reprendre.
Le projet de départ, c'était une vie monastique toute simple. On n'avait pas de schéma. Autre, c'était donc de trouver un lieu. Le père Vissot, c'était trouver un lieu de solitude.
Voilà. Je suis un peu candidat, mais quand on dit d'un lieu monastique, qu'est-ce que c'est qu'un lieu monastique?
Un lieu monastique, c'est bon. Les moines ont toujours privilégié des lieux qui sont en solitude, hein, loin un petit peu de la civilisation et du monde, pour y vivre une vie de prière, une vie de retrait, un peu du monde, une vie de retrait, et puis. Une vie de travail, puisque on essaye de gagner notre vie avec ce qu'on peut faire, chacun. Et ici, on a pensé qu'on pouvait essayer de vivre un petit peu, très simplement. Donc, voilà. Mais ce n'était pas du tout un projet ni écologique, c'était simplement pour vivre une vie monastique, très simple. Voilà.
Quand on dit vivre en retrait, mais pas exclu de la société, donc
non,
il y a quand même un
lien. Non, pas exclu du tout, parce qu'on a toujours eu des relations et on a besoin de relations avec les autres. Mais c'est un certain retrait, si je veux, par rapport aux activités du monde, par rapport aux relations aussi, parce que il y a cette dimension monos, eh ben moine ça veut dire seul, donc c'est seul, seul avec Dieu, hein, donc seul avec Dieu, bon avec des frères aussi pour s'aider, mais c'est cette démarche là qui nous a tirés, voilà. Non, mais le but n'a pas été de vivre en autarcie. On n'a pas voulu continuer le système des personnes qui étaient là avant nous, qui vivaient d'ailleurs en autarcie par la force des choses. Hein. Toutes les fermes autour ici étaient dans le même cas. Hein. Voilà. Nous, c'était plutôt de retrouver, d'avoir simplement une vie monastique simple. Voilà, une vie simple, on pourrait dire aujourd'hui. C'est tout.
Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une vie simple, si on devait la raconter ou l'expliquer? Qu'est-ce que vous entendez par une avoir... Qu'est-ce que c'est? Ouais. À partir du moment, à partir de quel moment une vie est simple?
Oh, je ne saurais pas trop dire. C'est une vie qui se... Enfin, pour nous, hein, je dirais que d'abord, c'est au niveau financier. Dans une petite communauté comme nous, on a à peu près la même façon de vivre qu'une famille. On n'a pas besoin de grosses choses financières, même, j'allais dire, peut-être moins qu'une famille, hein, parce qu'on n'a pas les problèmes des enfants et tout ça qu'il faut... Donc, c'est déjà, au niveau économique, quelque chose de très réduit. Ensuite, c'est d'utiliser un petit peu pour nous les choses qui, de l'environnement que la Providence nous a donné. On nous a mis sur une ferme, ben, il y avait des terrasses, il fallait bien faire quelque chose, quoi. Donc voilà, on a eu l'idée de reprendre un petit peu simplement les choses.
Quand on parle économie, est-ce qu'on peut parler de chiffres? Est-ce que vous auriez un moyen de dire quels sont les postes de dépenses mensuels?
Les postes de dépenses, c'est la voiture, nous, essentiellement. C'est la voiture. Et puis, ça a été les assurances, nos assurances, parce qu'on était quand même considérés comme agriculteurs, donc on cotisait à la MSA. Hein, on était co-exploitants agricoles de la ferme. Et bon, ça, les cotisations, au départ, elles étaient très peu, mais elles ont augmenté énormément. Et maintenant, c'est devenu très important. Quoi. C'est devenu important. Mais c'est la voiture, essentiellement, puisqu'au niveau nourriture, on n'a pas de dépenses, pratiquement. Quoi. Voilà.
Et les ressources, hein, c'est la vente de ces...
Les ressources, c'était les châtaignes, c'était le miel. On a beaucoup vendu de miel.
À la retraite.
Maintenant, je suis à la retraite, donc voilà.
On le soigne.
Dans un premier temps, c'était le vieux père qui était à la retraite, et donc voilà. Et maintenant, c'est moi qui suis à la retraite. Voilà.
Mais la retraite qui sert à la communauté,
la retraite, alors. Ben oui, bien sûr, on met tout en commun dans une communauté. Enfin, nous, au point de vue financier, on met tout en commun.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Non, mais c'est ça qui nous émerveille, de voir la réalité autour de nous, hein, la nature.
Et puis le vivant, quand on commence à comprendre,
vivant,
qu'en partant d'une graine.
Bien sûr.
En partant de là, il y a un potentiel incroyable pour nourrir
les hommes. Et en étant tout le temps en lien avec le vivant, comme ça,
ouais.
C'est ça que je disais, tu te sens, tu vis plus,
ouais, c'est
t'es
la
en lien,
même, ouais.
T'es en lien, ouais. Tout le temps.
Ouais, c'est ça.
T'es en lien tout le temps.
Ouais.
C'est une source d'émerveillement, mais ça n'exclut pas le combat, parce que c'est une lutte permanente, hein, l'agriculture.
Ouais.
Mais un émerveillement, mais sans limite. Hein. Celui qui sait voir. C'est la première parole de Dieu. Hein. C'est Saint Bernard disait, on apprend mieux auprès des rochers et auprès des arbres que dans le livre. Donc.
Quelqu'un dans notre Tour de France nous disait, moi j'ai pas envie de parler de sobriété, mais d'abondance.
Ah oui, une abondance dans la nature incroyable. Ouais.
Mais la sobriété, je pense qu'il veut, enfin c'est le fait de pas exploiter, c'est juste prendre ce qui est offert, accueillir ce qui est offert, ouais. Et pas vouloir rentabiliser. Ouais, c'est ouais. Ça être sobre, quoi.
Simplicité me conviendrait mieux, moi, ouais. Le mot simplicité. Ouais. Ouais.
Parce que quel est le lien pour vous entre la religion et l'environnement, l'écologie, s'il y en a un?
Déjà, si on croit en Dieu, d'abord, ce serait bien l'alliance avec du pape, et on parlera en long et en large. Mais le lien, c'est surtout, c'est un don de Dieu. La nature est nous nourrie comme le père nourrit ses enfants. C'est à travers la nature, c'est aussi Dieu qui nous nourrit, hein, c'est un don.
Est-ce qu'on parle de l'environnement, de la notion à la Terre, à la planète, dans la Bible ou dans les anciens textes sacrés?
Ça commence avec ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la Terre. Tout le début de la Genèse, il parle que de ça. Les étoiles, les astres, les plantes, les verdures, toute l'origine du monde. Hein. Il parle que de ça, en fait, au début. Ça en est plein.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.